Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des Débats. C'est un très grand honneur pour moi de recevoir ce soir Monsieur Alexandre Najjar. Alexandre Najjar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un auteur prolifique, amoureux de diverses thématiques et notamment du Liban, très cher aux auditeurs de Radio Courtoisie. Les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent certainement Saint-Charbel, souvent un peu moins Saint-Maroun, mais ils en ont entendu parler. Saint-Trafka pour les plus cultivés d'entre eux, mais beaucoup ne connaissent pas Abouna Yacoub, dont vous faites une vie de saint actualisée, modernisée dans l'exercice aux éditions Salvator. Je précise immédiatement le titre de cet ouvrage, Abouna Yacoub, l'homme de la Providence aux éditions Salvator. Et nous avons pouvoir parler pendant plus de 80 minutes de cette figure particulièrement inspirante avec vous. Si vous le voulez bien, trois questions liminaires pour commencer. D'abord, est-ce que vous avez une relation personnelle à Abouna Yacoub? Est-ce que vous le connaissiez avant de traiter le sujet? Qu'est-ce qu'il vous inspirait, j'allais dire, avant que vous n'en faisiez un sujet de travail?
En réalité, je le connaissais à travers une statue de lui qui se trouve à Antelias. Donc, je voyais souvent ce prêtre dans l'abbaye du Capucin, qui était dans une place d'une région qui est non loin d'Antelias. Et je m'interrogeais souvent pourquoi ce prêtre a-t-il mérité une statue? Qu'est-ce qu'il avait fait dans sa vie? Jusqu'au jour où un de mes oncles, qui était un grand mécène, décide de venir en aide à l'hôpital Saint-Joseph créé par Abouna Yaoub. Et il aide les religieuses, donc les sœurs franciscaines de la Croix du Liban, on en parlera tout à l'heure, à pouvoir réhabiliter cet hôpital qui est aujourd'hui l'un des principaux hôpitaux du Liban. Donc c'est à ce moment-là que j'ai appris à mieux connaître Abouna Yaoub, justement à travers ce don qu'il avait fait pour cet hôpital. J'ai rencontré donc des sœurs de la Croix et j'ai vu à quel point elles étaient dévouées et charitables et quel travail remarquable elles faisaient. Et donc j'ai voulu en savoir plus sur leur fondateur. Et là, je me suis dit, ce prêtre mériterait qu'on le connaisse mieux, surtout qu'il avait déjà été considéré comme vénérable et puis comme bienheureux. Donc il est à quelques pas encore de la sainteté. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens priaient pour lui et que souvent sollicitaient son intervention pour quand ils étaient dans le malheur. Et donc là, je me suis un peu documenté sur lui. Il a un petit musée qui existe au couvent de la Croix que je suis allé visiter. J'ai été frappé vraiment par ce personnage. Je me suis dit il faut absolument qu'il soit connu aussi bien des Libanais que de tous les croyants ou même non-croyants dans le monde qui pourraient prendre pour exemple, pour modèle, ce personnage incroyable, surtout à une époque où malheureusement le clergé a été un peu dans l'actualité montré sous un mauvais jour, et surtout certaines personnalités qu'on croyait intouchables et qui se sont révélées un peu, l'actualité a montré des choses qui n'était pas très plaisante, pour le moins qu'on puisse dire. Et donc, je suis allé vers ce personnage qui était vraiment un modèle d'humilité, de charité, pour montrer que non, dans l'Église, il y a des personnes remarquables. J'en ai connu d'autres aussi qui étaient un peu moins, peut-être qui ont été moins connus, même chez les jésuites où j'ai fait mes études, nous avions vraiment des prêtres remarquables. Donc, c'est aussi un peu pour montrer qu'il faut pas faire cet amalgame aujourd'hui que beaucoup heureusement ne font pas en mettant tout le monde dans le même sac et qu'il y a vraiment des personnages extraordinaires. Surtout aussi cette humilité qu'il avait, qui contraste avec certains prélats qui font un peu étalage de richesses, etc. Qui est contraire même à l'enseignement de l'Église d'ailleurs, que soit Jean-Paul II ou ses successeurs ont toujours insisté sur la nécessité de garder cette idée d'humilité auprès des gens d'Église. Donc voilà,
Oui,
c'est un peu le parcours qui a fait que je l'ai découvert et j'ai eu à cœur de le faire connaître.
les Français, pour beaucoup d'entre eux, découvriront Abou Na Yacoub à travers votre biographie. Pour qu'ils comprennent bien, quel est-ce que c'est une figure populaire au Liban? Est-ce que les gens le connaissent bien, ou est-ce que son image s'est un petit peu estompée? Est-ce qu'on parle
Non,
d'une
non, au contraire,
célébrité?
parce que ce qui est formidable, c'est que il y a quelques mois, le pape Léon a fait son premier voyage international au Liban. Et donc, d'habitude, comme ses prédécesseurs, on visite la capitale, on visite peut-être le patriarche, et en général, une messe est organisée à Beyrouth. Lui a tenu absolument à aller au couvent de la Croix, à l'hôpital psychiatrique de la Croix que Abou Na'oub a créé. Il a rencontré les fidèles là-bas. Il a eu une allocution. La mère supérieure des franciscaines de la Croix, à son tour, a fait aussi une allocation très émouvante. Il y avait aussi tous les malades psychiatriques, c'était incroyable, qui étaient dans la chorale. Il y a une chorale qui existe là-bas, qui a chanté des chants liturgiques. Et puis, ce qui est magnifique, c'est que il a tenu absolument le pape à rencontrer en tête à tête, une soixantaine de malades psychiatriques, de personnes atteintes de troubles psychiatriques, dont beaucoup d'enfants, mais dans des états très graves, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas aptes à sortir pour participer à la chorale. Et là, on sent à quel point ce pape aussi a compris le sens de l'humilité, c'est qu'il s'est assis avec chacun de ces 60 malades, il lui a donné du temps, il lui a parlé, loin des caméras, loin de tout le monde. Et ça, c'était vraiment magnifique. Donc cette visite non seulement au Liban, mais aussi bien dans tout le monde chrétien, et bien sûr en Italie, où on rencontre aussi de toutes les visites du pape, à Rome, etc. Donc, il y a eu vraiment un regain d'intérêt, sachant que les Libanais aujourd'hui, quand ils comptent leur saint, comme vous l'avez bien fait, aussi le considèrent au nombre, même s'il n'est pas encore vraiment un saint, mais aussi cette visite qu'un pape vienne visiter l'œuvre de ce personnage était en soi presque une reconnaissance de sainteté. Et dans son discours, il a salué en lui l'apôtre de la charité. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui était. Et moi, je me disais, moi qui, en ayant écrit sa biographie, je me disais, si le père Jacques, Abou Na'oub, en fait, Jacques et Ya'oub, Ya'oub, c'est le mot arabe de Jacques, donc on peut l'appeler le père Jacques aussi, s'il avait su qu'un jour, le pape, le chef de l'Église, viendrait visiter le petit couvent qu'il avait créé de ses propres mains. Et c'est sûr que dans sa tête, c'était impensable, c'était hallucinant. Et moi, j'étais présent là-bas avec mes frères, et j'ai été extrêmement ému de la ferveur de ces malades qui étaient là, qui attendaient le pape, et des mots du pape et surtout, j'étais ému à l'idée que finalement, ce petit prêtre qui a commencé de zéro, sans rien, qui commençait des entreprises, des établissements pédagogiques ou médicaux, sans avoir le moindre sou, qu'aujourd'hui que le pape vienne de son propre chef visiter ses œuvres, ça c'était incroyable, vraiment.
Incroyable, et incroyable aussi le destin de ce prêtre de Razir. Quand on doit travailler sur cette biographie, notamment dans cet exercice très particulier qu'est la biographie d'un, pas encore saint, mais d'un bienheureux, le travail historique est d'autant plus délicat que beaucoup de relations sont faites sur sa vie quotidienne, notamment pour un personnage qui a vécu au XXe siècle. Comment avez-vous travaillé, à partir de quelles sources, Alexandre Najar, avez-vous pu travailler à cette biographie?
En fait, trois sources majeures. La première, c'est le travail du Vatican. Vous savez, quand on décide de déclarer quelqu'un vénérable et puis bienheureux, il y a toute une enquête qui est instruite au Vatican, mais avec les moindres détails. Si vous voyez le nombre de témoins qu'ils ont interrogés, le nombre de personnalités qu'ils ont rencontrées, le nombre de documents qu'ils ont recueillis, c'est vraiment un travail incroyable. Et donc, je peux dire que cette matière-là est vraiment très précieuse pour un biographe, parce que déjà, cette enquête fouillée, parce qu'il ne faut pas que, vous savez, aujourd'hui, quand on déclare quelqu'un de bienheureux, il faut vraiment que dans son parcours, il n'y ait pas de faux pas, qu'il n'ait pas eu de choses qui ne sont pas à l'honneur de la personne. Donc, ils ont vraiment épluché tout, ils ont interroger des personnes, enfin toujours vivantes ou décédées. Donc ça, c'était le premier, je peux dire, le plus important document. Ensuite, il y avait les écrits qui sont là, les sermons, les textes de Abou Naoub lui-même. Et puis le musée, qui est très bien fait, qui comporte beaucoup d'objets, de documents sur lui. Donc, voilà, ça c'était les trois sources principales. Donc lui étant décédé en 1954, donc on n'a pas, enfin beaucoup de témoins sont aujourd'hui ne sont plus de ce monde. J'en ai connu deux ou trois qui étaient encore un peu âgés, qui l'ont connu. Mais globalement, heureusement que le Vatican, dans son enquête, avait déjà interrogé certaines personnes. Et je vous donne deux petits témoignages qui sont très symptomatique de ce qu'il était. Un jour, il décide de planter une croix parce qu'il croyait beaucoup dans la symbolique de la croix. Et donc, il souhaitait toujours qu'il y ait des croix dans des endroits stratégiques pour rappeler un peu le calvaire du Christ et le symbole de la chrétienté. Donc, à Deir el-Kamar, un village dont d'ailleurs je suis moi-même originaire, ma famille, donc il inaugure donc la croix à Deir el-Kamar, et une grande personnalité, un grand historien de la famille Boustany, Fouad Frem Boustany, lui dit: voilà, nous avons demandé un taxi pour vous ramener chez vous. Voilà, donc on vous donne quelques piastres qui sont ce qu'il faut payer donc à la voiture. Et donc le père Jacques lui dit: cet argent que vous me donnez, des pauvres pourraient en faire meilleur usage que moi, je rentre à pied. Et il a fait c'est un parcours incroyable, c'est extrêmement loin. Donc en sandales, il est descendu de Deir el-Kamar jusqu'à chez lui pour ne pas prendre le taxi, et cet argent qu'il avait pour qu'il puisse le donner aux pauvres. Donc ça montre un peu cette idée. Deuxième détail que j'ai vu au musée, le chapelet en bois qu'il avait, c'est une croix bien sûr en bois, et on se rend compte qu'elle est élimée, c'est-à-dire que la croix n'est pas droite, elle est comme un peu rongée. Et en fait, c'était à force de prier, d'utiliser ce chapelet, que le bois s'est détérioré. Et on voit à quel point, et d'ailleurs, un des personnages, un psychiatre connu qui l'aidait beaucoup, de la famille Azouri, qui l'aidait beaucoup dans l'hôpital psychiatrique, raconte que quand, par exemple, ils étaient trois personnes, dont lui-même, dont le père Jacques a discuté, si un des protagonistes parlait avec l'autre, il se rendait compte que le père Jacques, donc, qui n'était pas dans la conversation, faisait, enfin, ses lèvres bougeaient. Et il se rendait compte que quand il ne parlait pas à quelqu'un, il priait. C'est-à-dire, s'il était au milieu de personnes, enfin d'un groupe avec qui il discutait, quand il ne discutait pas, quand il ne parlait pas, il priait. Et ils étaient frappés toujours de voir qu'il ne perdait aucune seconde pour la prière. C'est-à-dire, dès l'instant où il ne parle pas à quelqu'un, il doit prier. Et bien entendu, toutes les sœurs qui l'ont connu, les religieuses, ont toutes des témoignages incroyables de sa dévotion, de son humilité. Donc c'est quelqu'un au-dessus de, enfin, qui était un être exceptionnel, qui a su atteindre, enfin, se rapprocher du divin à travers cette volonté de d'être humble, de d'être proche des gens, de d'être charitable, d'être pieux. Et c'est ce qui fait la grandeur du personnage.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Alexandre Najjar qui publie Abouna Yacoub, L'homme de la Providence aux éditions Salvator. Ultime question liminaire, si vous le voulez bien, Alexandre Najjar. Vous écrivez dans votre avant-propos, en 2008, je vous cite, en 2008, lors de la cérémonie de béatification d'Abouna au centre-ville de Beyrouth, j'ai ressenti une vive émotion et la fierté d'être le compatriote de cet homme d'exception qui fut, comme l'affirmait le patriarche Maronite Arida, une des gloires du Liban. Est-ce que pour vous, ce terme d'une des gloires du Liban sied correctement, convenablement à Abouna Yacoub?
Oui, je crois que aujourd'hui le Liban, qu'est-ce qui fait la caractéristique, enfin les caractéristiques du Liban? C'est d'abord un pays multiconfessionnel où la chrétienté est bien implantée, où il y a des sites qui sont dédiés à la chrétienté, comme notamment la vallée de la Kadisha, à laquelle j'ai consacré un livre, également bien sûr le sanctuaire de Saint-Charbel, Harissa, le sanctuaire de Notre-Dame du Liban. Même au sud du Liban, malheureusement, qui est aujourd'hui en pleine guerre, il y a des sites qui ont été visités par Jésus d'après les évangiles. Donc on voit bien que le Liban est aussi une terre biblique. Donc déjà, le contexte dans lequel évolue le père Jacques est un contexte d'un pays donc, où la chrétienté est très implantée, où il y a des sites qui sont cités dans la Bible et où il y a une ferveur, une vraie ferveur. Lui, ce qui a, pourquoi peut-on le considérer comme une des gloires du Liban? Parce que justement, il symbolise ces personnalités exceptionnelles de ce monde chrétien au Liban qui se sont dépassées, surpassées, qui sont arrivées, comme je l'ai dit, à un état de sainteté, et puis qui étaient eux-mêmes des Libanais convaincus, profondément Libanais, et surtout, qui étaient en fait très ouverts, très tolérants vis-à-vis des autres confessions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le père Jacques considérait toujours que la charité ne connaît pas de religion, ne connaît pas de couleur. Et toujours dans ses œuvres charitables, il ne faisait aucune distinction entre musulmans, chrétiens, juifs. Donc, enfin, vous savez, au Liban, on a une multitude de confessions qui cohabitent tant bien que mal. Et donc, pour lui, la charité n'avait pas de couleur, n'avait pas de religion. Et ça aussi, ça symbolise ce Liban du vivre ensemble, malgré tous les soubresauts et les vents contraires qui ont fait qu'il y a eu évidemment cette guerre de 15 ans et puis aujourd'hui ces conflits aussi. C'est vrai que cette cohabitation n'est pas toujours facile, mais lui, il y a cru tout en étant, comme je l'ai dit à propos de la croix, profondément attaché à son identité chrétienne, à son appartenance à l'Église, mais en même temps, il était extrêmement ouvert à toutes les autres religions. À tel point que les premiers ministres successifs qui sont sunnites, le premier ministre au Liban est toujours de confession sunnite, ils ne lui refusaient rien. Lorsqu'il y avait, par exemple, souvent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il disait toujours, un saint ne doit pas être un âne, pour dire qu'il ne faut pas se laisser faire. Et lui, toujours, il suivait jusqu'au bout les moindres formalités. Par exemple, à l'hôtel psychiatrique de la Croix, le ministère au Liban des Affaires sociales octroie une certaine somme pour les malades. C'était souvent très insuffisant. Donc il allait plaider la cause comme un avocat de la charité et il réclamait que ces dotations soient augmentée pour que les malades puissent vivre de façon décente. Quand il y avait, par exemple, une construction qu'il faisait et que l'eau n'arrivait pas, par exemple, à un établissement qu'il avait créé, il allait personnellement chez le maire, chez le gouverneur, chez le premier ministre, donc Sunit en l'occurrence, qui toujours ne lui refusait rien parce qu'il savait que c'était un être dont le seul moteur était la charité et sans aucune distinction. Donc c'est à ce titre que je crois qu'on peut parler de gloire du Liban, sachant que du reste, son œuvre a continué après lui grâce à cette congrégation qu'il a fondée, en ce sens que tout son héritage aujourd'hui est en de bonnes mains, puisque je le répète, cette congrégation est à mon avis une des plus importantes, les plus brillantes, les plus... mu par l'abnégation, par le devoir, le sens du devoir, c'est vraiment un travail qu'il a lui-même préparé et aujourd'hui on sent que toutes ses œuvres sont poursuivies par cette congrégation, ce qui fait que on ne peut pas ne pas être d'accord avec cette idée que c'était une gloire du Liban, parce que finalement qu'est-ce que aujourd'hui, si on prend un guerrier, un seigneur de la guerre, où est la gloire du Liban dans ce qu'il a fait? S'il a tué, s'il a participé à des massacres, on ne peut pas parler du tout de gloire. Au contraire, on devrait peut-être avoir honte de ce personnage-là, de cette classe politique corrompue que nous avons eue. Donc aujourd'hui, quand on voit une personnalité de cette trempe, elle nous réconcilie avec le Liban que nous aimons. Et elle est l'antinomie, le contraire même de cette classe corrompue qui nous a amenés au désastre pendant des années.
Pour sortir de ce désastre, il faut évidemment des figures d'espoir et aussi des figures d'union, puisque gloire du Liban, évidemment pour Abouna Yacoub, mais gloire de l'Église universelle, également. Il réussit à entretenir parfaitement au cours de sa vie à la fois son identité, son origine maronite, et en même temps, son adhésion pleine et entière, à l'ordre capucin. Il est à cet égard très symbolique de cette universalité chrétienne.
Exactement.
Est-ce que ça vous inspire un commentaire, Alexandre Najar?
Non, non, je suis tout à fait d'accord. Vous
Ah,
avez
parfait.
très bien cerné la chose, c'est que il était à la fois profondément maronite et puis il a adhéré à l'ordre donc des Capucins, je crois, parce qu'il était d'abord parce que à Razir il y avait cet ordre des Capucins à Hachbaou, qui est dans la localité. Et puis, je crois que l'ordre des Capucins convenait parfaitement à l'idée qu'il se faisait de la vocation de religieux. Et donc, il a vécu cela avec beaucoup d'harmonie et sans aucune difficulté. Donc, et d'ailleurs, toutes les congrégations maronites, le patriarche le considérait comme un des leurs. Donc il n'a jamais eu de heurts ou de frictions à cet égard. Et d'ailleurs, la naissance de la congrégation des franciscains s'est faite sans opposition de toute la communauté maronite qui voyait en lui, bien entendu, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui méritait d'être soutenu, qui méritait, il voyait en fait ses réalisations qui étaient ouvertes à tous les prêtres. Par exemple, je vous donne un exemple, le Christ roi. Donc, c'est quand on vient du côté du Kesrouan au Liban, on voit une statue de Jésus, un peu comme celle du Brésil. Donc les bras ouverts sur un grand piédestal. Et cet établissement en haut qui est symbolisé par cette grande statue a longtemps accueilli des prêtres âgés. Parce qu'il avait toujours été, d'ailleurs quand il a eu sa vocation, lorsqu'il a eu l'idée d'entrer dans les ordres, c'est en voyant un prêtre qui était décédé dans le dénuement. Et donc il avait toujours pensé que les prêtres devaient aussi, à la fin de leur vie, vivre décemment et ne pas être rejeté ou bien vivre dans la misère. Et donc, dans cet établissement, il y avait des prêtres qui étaient un peu de toutes les congrégations. Ce n'était pas ouvert pour les capucins uniquement, pas du tout. Et donc, ça montre bien que c'était aussi, il n'y avait pas du tout de barrière entre les congrégations à cette époque-là. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit.
Nous allons faire notre première pause musicale en écoutant Mozart et puis nous retrouverons Alexandre Najjar, auteur de Abouna Yacoub, l'homme de la Providence, aux éditions Salvator. Vous êtes de retour dans le libre journal des débats de Radio Courtoisie, dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir M. Alexandre Najjar qui publie Abouna Yacoub, l'homme de la Providence, aux éditions Salvator. Nous venons d'introduire un petit peu sa vie. Maintenant, entrons dans le cœur de la biographie qu'Alexandre Najjar nous offre de connaître. Quelle est l'extraction familiale, finalement, d'Abouna Yacoub?
En fait, il était enfin, il est né à Razid, donc c'est un très beau village du Liban qui surplombe un peu la mer. C'est qu'on a une vue panoramique de la mer là-haut. Et puis, c'est un village qui a été très ancré dans la vie chrétienne libanaise en raison d'églises, de couvents qui existaient là-bas. Donc lui va fréquenter l'école Saint-François à Razil, puis l'école de Mzar, et ensuite il va être envoyé au collège de la Sagesse à Beyrouth, où il étudie l'arabe, le français, le syriaque. Il avait d'ailleurs un très bon français. J'ai trouvé des textes écrits en français de sa main, qui étaient très francophones. Et donc son père, en fait, lorsqu'il a eu la vocation et qu'il a souhaité entrer dans les ordres, était extrêmement contre ceci. Je pense qu'à l'époque, beaucoup de pères comptaient sur leurs enfants aussi pour. C'était une époque un peu difficile au niveau économique, donc ils avaient besoin des bras de leurs enfants pour les aider dans les travaux manuels, dans les champs, dans leurs travaux. Et donc le fait qu'ils choisissent d'entrer dans les ordres a été très mal reçu par le père qui à plusieurs reprises a essayé de l'en dissuader, mais finalement il a suivi sa vocation. Mais entre-temps, donc il était allé enseigner l'arabe à Alexandrie dans un collège qui s'appelait le collège Saint-Marc, tenu par les frères des écoles chrétiennes. Et c'est là-bas qu'il ressent un fort appel à la vie religieuse. Et c'est à son retour donc qu'il décide d'entrer donc à Beit Hashbaou, donc qui est un couvent pour les frères mineurs capucins, et il choisit donc le nom de Jacques en l'honneur de Saint Jacques de la Marche, et il va prononcer ses vœux religieux en 1898 et recevoir l'habit le 26 mars 1894. Et donc, il est ordonné prêtre en 1901 à Beyrouth. Et il gardera jusqu'à sa mort donc, le nom de Père Jacques ou Abou Nayaoub en arabe. Donc, au début, il est assigné un couvent à Bab Idriss à Beyrouth où il va travailler un peu à l'amélioration spirituelle des fidèles. Et c'est déjà à cette époque, il s'occupe d'hôpitaux, d'orphelinats. Et puis, il a un côté un peu missionnaire. Il devient un peu prédicateur apostolique ou missionnaire. Et pendant plusieurs années, donc à peu près de 1903 à 1914, il va sillonner le Liban pour enfin propager la foi chrétienne et aussi s'occuper d'écoles gérées par les capucins. Donc il avait aussi une grande capacité de pédagogue. Et moi, j'insiste sur ça pour deux raisons. La première, c'est que ayant beaucoup rencontré les enfants dans les écoles. Donc, il avait appris à leur parler. Et puis, il utilisait à l'époque des moyens technologiques aujourd'hui qui nous paraissent un peu dépassés. Mais pour l'époque, par exemple, un magnétophone, ensuite, un peu après, des projections. Donc, il utilisait aussi des moyens pour capter ce jeune public. Et ce qu'on lui doit beaucoup au Liban, c'est la notion de cérémonie de première communion. Autrefois, la première communion était faite de façon un peu sans cérémonie vraiment importante. C'était donc lui, non, c'est tout un rituel autour de la première communion avec des chants, une préparation des enfants avec une cérémonie, avec de la musique. Donc il a fait en sorte que cet enfant qui entre qui fait sa première communion, sente vraiment qu'il y a un événement, un tournant dans sa vie, et que ce n'est pas juste une petite formalité sans importance. Donc aussi, je pense que cette notion de cette conscience de l'importance de la première communion, elle est très importante dans son esprit, à tel point que, comme je l'ai dit, il a propagé cette cérémonie à peu près dans tous les villages où il passait et où il préparait les enfants à cela. Et
Alors,
puis, oui.
un certain nombre de questions, si vous le voulez bien, Alexandre Najar, déjà, parce que ce que vous venez de dire est très riche. Cette importance de la première communion dans les sacrements, dans le sacrement de l'Eucharistie, il l'a aussi perpétué tout au long de sa vie. L'adoration eucharistique, la prestance de l'Eucharistie a toujours été très importante dans sa spiritualité personnelle également.
Oui, tout à fait. Moi, je crois que l'Eucharistie et la croix est très importante puisqu'elle est omniprésente. Même l'ordre qu'il a créé, franciscain de la croix, le fait qu'il avait au départ voulu faire que ce soit à Jaledib ou à Deir el-Kamar, des croix un peu, de grandes dimensions qui puissent être, par exemple, lorsqu'il a fait la chapelle dédiée à Notre-Dame de la Mer, peut-être inspiré un peu de ce qu'il y a en France. Donc, il avait érigé une grande croix à proximité de la chapelle. Il avait lui-même acheté un terrain sur une colline à Jaledib à peu près 1919, et qu'il avait dédié donc cette chapelle à Notre-Dame de la Mer en érigeant une grande croix de sorte que les bateaux au loin, les navigateurs pouvaient reconnaître cette croix de loin. Et donc pour lui, c'était extrêmement symbolique. Il était souvent dans ses sermons, dans ses textes, on sent la notion de croix comme symbole et omniprésente chez lui.
Vous nous avez parlé de sa francophilie, de sa maîtrise du français. Il faut dire que quand il est novice, il est en contact avec des religieux français, puisqu'on est à la même époque que l'expulsion des congrégations en France. Un certain nombre de religieux ont trouvé refuge au Liban, en réalité, hein, pour leur apostolat, notamment des Savoyards et après des Lyonnais. Finalement, Abou Yacoub, il a été en lien avec l'Église universelle par sa pratique de la foi, qui est universelle, mais aussi par ce petit monde, cette petite société qui était le couvent des Capucins, où il a fait toutes ses classes, si j'ose dire.
Tout à fait, en effet. Et puis aussi, c'est important de savoir aussi, c'est que cette idée après de congrégation, elle n'est pas venue tout à coup comme ça. Au départ, il a introduit le tiers-ordre franciscain au Liban. Donc, c'était des hommes et des femmes qui étaient dédiés, qui étaient des volontaires enfin, au service de la foi. Et donc, il a un peu créé ce tiers-ordre franciscain, tiers-ordre un peu partout au Liban. Et donc, ça, de là est venue cette idée de pouvoir créer quelque chose, une sorte de communauté qui puisse servir, être au service des Libanais. Ça a commencé comme ça au départ. C'était justement de propager le tiers-ordre de Saint-François. Donc, ce mouvement a rapidement fait tache d'huile. Et puis, en 1930, il s'est dit, pourquoi s'appuyer seulement sur des volontaires, donc autant créer et fonder une congrégation. Et à l'époque, c'était pour venir en aide aux personnes âgées et handicapées au départ. Et donc, il avait comme collaboratrice Sœur Marie Zreb, qui va l'aider à fonder cette congrégation. Pour lui, dès les premières actions que cette congrégation faisait, l'idée de miséricorde, d'œuvres de miséricorde était au cœur même de cette congrégation. C'était de toujours aider les prochains, de venir en aide aux personnes âgées, aux handicapés, aux malades. Donc, c'était un peu l'idée qu'il avait en tête dès 1930, donc dès la fondation et même avant, à travers justement le tiers-ordre franciscain qu'il avait contribué à propager aux quatre coins du Liban.
Abouna Yacoub n'a pas manqué d'épreuves, comme ses compatriotes. Vous revenez dans un chapitre très touchant sur son expérience de la Grande Guerre. Peut-être pouvez-vous d'abord rappeler quelle est la situation générale du Liban pendant le premier conflit mondial, puisque une partie de nos auditeurs n'en sont peut-être pas
Oui, donc le
familiers.
Liban était à l'époque donc sous l'Empire ottoman, et les Ottomans à l'époque donc de la Première Guerre mondiale, avant l'entrée avant que le Liban ne soit placé sous mandat français, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, donc les Turcs, donc les Ottomans, ont commis beaucoup d'exactions au Liban. Ils ont, vous savez, on a au Liban la place des martyrs qui symbolise la mort, la mise à mort par les Turcs de plusieurs nationalistes libanais qui ont été pendus sur la place publique. Mais surtout aussi, ils ont combattu les congrégations religieuses et aussi, il y a eu une famine incroyable qui a décimé des villages entiers où des gens étaient obligés des fois à vendre des terrains entiers. Pour une galette de pain. Ça a été une famine monstrueuse. Aujourd'hui, les jésuites, dans leurs archives, ont des photos qu'ils ont conservées de cette période. C'est hallucinant. On voit des gens, des enfants décharnés complètement, les ventres ballonnés, qui sont morts, certains dans des dizaines, des villages entiers qui sont décimés. Donc lui, évidemment, à cette époque, il va tout faire pour venir en aide à ses concitoyens, et même il va s'opposer. Bon, je ne vais pas tout raconter parce que faut garder au lecteur l'envie de se plonger dans ce livre, mais il y a un chapitre où je raconte comment, avec beaucoup de courage et d'aplomb, il a fait face à des Ottomans qui voulaient même le déférer devant le tribunal militaire. Et donc, il a été d'une grande dignité il n'a pas cédé. Et ça, on voit bien aussi que ce personnage avait beaucoup de courage et de caractère et ne se laissait pas faire. Voilà, donc cette période est intéressante pour découvrir un peu cet aspect, ce courage qui le caractérisait.
Vous écrivez à cet endroit, les témoignages sur cette époque abondent. Ils nous révèlent tous l'abnégation d'un homme de Dieu déterminé à mener à bien son apostolat malgré les affres de la guerre, convaincu que la patience du Christ, averti, doit chasser le désespoir. Et c'est tout sauf un désespéré tout au cours de sa vie, Abouna Yacoub. Il a une confiance en la providence et en Dieu qui est à chaque fois absolument remarquable.
Surtout que dans l'adversité, il ne faut pas penser que En fait, les Ottomans ont pillé les biens des Capucins, ils ont dégradé les maisons qu'ils avaient, les maisons, enfin les couvents. Donc, il y a eu un vrai bras de fer, et lui a tenu tête, a tenu bon. Et ça prouve aussi que c'était quelqu'un qui avait toujours l'espérance en lui, et la foi lui donnait vraiment la force de tenir tête à toutes les difficultés.
Cela l'engage à toujours plus de détermination, toujours plus d'action. Les chiffres sont extrêmement parlants. Dans sa période de fondation scolaire, je crois que vous nous dites qu'en 5 ans, il a créé 215 écoles. Ce sera toute sa vie un bâtisseur incroyable, bâtisseur matériel, patrimonial, j'allais dire, mais bâtisseur d'équipe, bâtisseur d'entente, bâtisseur de relations. C'est un homme qui multiplie les projets avec une frénésie qui dépasse presque l'entendement, finalement.
Oui, tout à fait. Ce qui est remarquable, c'est qu'il commençait de zéro. Moi, j'ai eu la conviction, en épluchant toutes les archives, c'est que vraiment, quand il se mettait en tête de vouloir faire quelque chose, il réunissait pas le capital pour cela. Il partait de rien. Et d'où sa fameuse phrase, la banque de la Providence ne fait jamais faillite. Il considérait toujours que la Providence allait voler à son secours. Et même s'il a eu des déceptions, il y a une histoire fameuse où on vient lui dire qu'il y a une Française à qui il peut s'adresser et qui peut l'aider, lui envoyer de l'argent pour ses projets. Donc il lui écrit une belle lettre où il lui expose ce qu'il a fait. Et quelques jours après, il reçoit une lettre, une enveloppe, et donc tout plein d'enthousiasme, il ouvre cette enveloppe et il y a 1 franc. Et en fait, elle avait fait juste une petite donation de rien du tout. Et là, évidemment, il est déçu, mais il prend cela au lieu d'être enfin en colère, ou il prend ça avec philosophie. Il se dit, voilà, on peut des fois compter sur des gens qui nous déçoivent, mais finalement, ça doit être aussi un moteur pour nous, pour aller frapper à d'autres portes, à invoquer Dieu pour qu'il nous envoie des aides par la façon dont il a le secret. Et c'est vrai que il y a plein de témoignages où des gens venaient faire des donations inattendues, ou à un moment où il avait besoin, par exemple, de matériaux de construction, ça lui tombait comme ça du ciel sans savoir comment. Un concours de circonstances faisait que quelqu'un lui offrait ce dont il avait besoin. Et donc, ce billet d'un franc, il l'a mis dans son portefeuille et il ne l'a jamais quitté. Il est toujours dans le musée. C'est ce franc qui avait été envoyé par une donatrice française pour lui, c'était un peu l'ironie du sort, en se disant, voilà, je n'ai eu qu'un franc, mais c'est peut-être un porte-bonheur, et que peut-être ce franc va ouvrir la porte à d'autres bienfaiteurs plus généreux. Et c'est ce qui s'est passé quand il a ouvert, enfin, que ce soit l'hôpital, les écoles, la maison, l'asile pour les vieillards, l'hôpital psychiatrique. Il partait toujours de rien, et Dieu faisait que les gens qui voyez en lui quelqu'un de très honnête, de très de saint finalement. Il a été un saint avant l'heure, et donc une sainte personne. Il n'hésitait pas. Il disait, on ne peut pas laisser ce projet comme ça sans lui porter secours, sans l'aider, sans le soutenir. Et c'est pour ça, donc, cette fameuse phrase, la banque de la Providence ne fait jamais faillite, et d'où aussi le titre du livre, L'homme de la Providence. C'est que il y a quelque chose d'inexplicable, de surnaturel, de quelqu'un qui commence des projets incroyables, un hôpital sans le sou, et puis tout à coup, toutes ces personnes qu'il sollicitait, ou même qu'il ne sollicitait pas de leur propre chef, lui venaient l'aider. Et c'est là où il y a quelque chose qui dépasse un peu l'entendement, et c'est comme si, quelque part, il y a une volonté divine de ne pas laisser ce prêtre se débattre seul, et d'échouer. Il n'a jamais échoué. Tous les projets qu'il a réalisés, même les plus difficiles, il a pu les mener à bien, des fois avec difficulté, mais toujours, il n'a jamais laissé de projet inachevé ou abandonné. C'est ça qui est remarquable. Comment, quelle volonté, quelle détermination. Et comme je l'ai dit, il allait lui-même suivre les moindres formalités. Il était d'un dynamisme incroyable. Et on lui refusait rien quand il allait chez le président de la République, chez le Premier ministre. Il était reçu comme un pape et on acceptait volontiers toutes ses doléances parce qu'on savait que c'était pour le bien, et je répète, pour le bien de tous les Libanais sans distinction.
Un homme d'une frénésie de travail, on l'a dit, et en même temps d'une grande frugalité. Vous insistez régulièrement, on en a déjà parlé, sur le fait qu'il marchait énormément plutôt que d'employer des transports pour économiser cet argent pour les œuvres. Mais il y a aussi la relation de ses repas qui sont toujours extrêmement frugaux. C'était un homme du jeûne, c'était un homme de la pauvreté consentie et portée comme une fierté finalement.
D'ailleurs, il y a dans la chambre où il dormait, il y avait toujours une référence à Saint François d'Assise, qui était aussi dans cette logique. Et donc pour lui, c'était le fils spirituel de Saint François d'Assise, en ce sens que il se réclamait de lui, il suivait ses préceptes et cette idée de charité, de dénuement, était certainement inspiré de Saint François. D'ailleurs, Saint François est omniprésent, aussi bien dans le tiers-ordre franciscain que en 1919, il fonde une école qui s'appelle Saint François à Jalédine. Il appelle sa congrégation les franciscaines de la Croix. Donc, on peut dire qu'il se réclamait de Saint François, mais il a aussi, il ne suffit pas de se réclamer, mais dans la pratique, il a été un vrai disciple de Saint François dans l'application.
Nous allons continuer à découvrir cette belle œuvre d'Abouna Yacoub grâce à Alexandre Najjar, son biographe aux éditions Salvator, après une deuxième pause musicale et un petit bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous êtes de retour dans le Libre Journal des Débats, dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Alexandre Najjar, avec qui nous explorons la vie d'Abouna Yacoub, l'homme de la Providence, le titre de la biographie qu'Alexandre Najjar vient de publier aux éditions Salvator. Nous en arrivons au cœur de la grande œuvre d'Abouna Yacoub, parmi, on l'a dit, de multiples projets, cette congrégation des franciscaines de la Croix du Liban. Peut-être que finalement, la meilleure manière de partir de la description de cette congrégation, c'est d'expliquer son titre, qui résume presque, qui synthétise toute une partie des inspirations du Père Jacques.
Oui, tout à fait. Donc, franciscaine de la croix au Liban. Donc, à la fois Saint François, la croix, qui était son symbole. D'ailleurs, quand ils se saluaient à l'époque, c'était Vive la croix. Donc, il y avait même dans le salut des religieuses et du prêtre une référence à la croix. Et Liban, bien entendu, puisque, comme je l'ai dit, c'était un Libanais, fervent Libanais, qui était très attaché à sa terre. Et donc, dans le titre même, il y a en fait, chaque mot est explicite. Et donc, cette congrégation qui va commencer au début avec quelques personnes et qui va s'occuper surtout des personnes âgées, des prêtres âgés, des personnes handicapées, va peu à peu grandir, accueillir des malades. Et puis, la congrégation elle-même va petit à petit recevoir toutes les reconnaissances nécessaires de la part de l'Église. Et de sorte que ça s'est devenu aujourd'hui une des principales congrégations du Liban, qui elle-même supervise aussi bien le couvent psychiatrique de la Croix que le grand hôpital Saint-Joseph dont on a parlé tout à l'heure, qui est un des plus importants. Il y a aussi l'école qui s'appelle Val-Saint-Jacques. Donc il y a le Christ-Roi, dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, et d'autres aussi institutions qui sont aussi bien au Liban qu'à l'étranger. Donc c'est tout un réseau qui est aujourd'hui mis en place et qui continue malgré, bien sûr, il y a un manque de vocation comme partout dans le monde, mais néanmoins cette congrégation demeure très très vivante. Et je répète que la visite du pape Léon à cette congrégation a été un symbole très fort, puisque tout en saluant le travail du père Jacques, il a également, dans son allocution, rendu hommage à ces religieuses qui étaient toutes présentes, bien entendu, pour le travail exceptionnel qu'elles font au service des malades, des pauvres, des élèves, des étudiants dans la région.
Il faut dire qu'il y a un aspect complètement novateur à cette inspiration. À l'époque, les asiles, les centres d'accueil pour les personnes en situation de handicap et pour celles souffrant de troubles psychologiques en sont encore à leur balbutiement au Liban.
Oui, bien sûr. Et heureusement, les choses ont beaucoup évolué. À l'époque, c'était vraiment, bon, les familles ne savaient pas comment traiter leurs enfants, leurs proches. Il n'y avait pas tous les médicaments aujourd'hui qu'on donne pour améliorer la condition de certains malades. Il n'y avait pas les moyens médicaux qu'il y avait, mais lui, bon, il a commencé avec les moyens du bord. Et déjà, il donnait accueillir ces personnes-là qui étaient un peu rejetées par la société, qu'on appelait communément les fous. Il était là pour les accueillir, pour les prendre en charge. Et même aujourd'hui, vous savez, ce qui est affligeant, c'est que il y a beaucoup de familles qui suivent jusqu'au bout, qui sont toujours solidaires de ces personnes, de ces proches qui sont dans cette situation difficile. Mais malheureusement, il y a aussi pas mal de familles jusqu'à nos jours qui délaissent complètement ces enfants-là, ces proches, comme si ils se désolidarisaient ou qu'ils rejetaient ces personnes-là. Donc, s'il n'y avait pas cet établissement, les sœurs, pour ouvrir leurs bras à ces gens-là, pour s'occuper d'eux. Et c'est pour ça que le pape aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un pavillon, je pense qu'il s'appelle Saint-Dominique, où il a rencontré une soixantaine de personnes les plus atteintes. Et donc, c'était nécessaire. C'était pas, cet établissement est né d'une nécessité. Au Liban, il fallait qu'il y ait un endroit où on accueille avec amour ces personnes-là. Vous savez, autrefois, moi, lorsque j'ai écrit sur la vallée de l'Acadisha, il y a près d'un couvent qui s'appelle Saint-Antoine, Dans la Kadisha, autrefois, on enchaînait les malades qui avaient des problèmes psychiatriques. Donc, évidemment, le Père Jacques, c'était un accueil avec amour, pour soigner. On était loin de cette idée d'enchaîner les personnes qui avaient ces troubles. Et d'ailleurs, le fameux écrivain libanais Gibran Khalil Gibran, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Fou, a toujours donné une image positive de la folie en partant de cette idée que ce qu'on appelle communément la folie, qui est en fait, bien entendu, c'est un terme qu'on n'emploie plus aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes psychologiques, psychiatriques qui sont extrêmement délicats, différents. Donc évidemment, c'est un mot qu'on ne peut plus accepter. Mais déjà, un écrivain comme lui essayait de montrer qu'on ne pouvait pas rejeter les personnes qui étaient atteintes de problèmes psychologiques ou psychiatriques, et qu'il fallait leur donner de l'affection, de l'amour, et qu'ils voyaient en eux des gens peut-être qui avaient une vérité que les autres n'avaient pas. Et lui-même, qui a vécu dans la Kadisha quand il était enfant, donc Gibran, avait vu cette grotte où on enchaînait les gens qui étaient soi-disant possédés. Et donc, il a compris qu'on ne peut pas traiter des gens de cette façon. Donc, le Père Jacques était l'antithèse de cela. Il a amené des médecins, donc le professeur Azouri, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient des médecins qui étaient extrêmement à même de faire de cette institution une institution respectable qui puisse traiter les personnes atteintes de ces problèmes avec beaucoup de professionnalisme. Et bien sûr, avec le temps, comme je l'ai dit, le nombre de ces patients, de ces malades, a beaucoup augmenté. Et aujourd'hui, il y a eu une sorte de téléthon qui a été lancé il y a quelques mois pour venir en aide à cette institution, un peu dans l'esprit du Père Jacques qui attendait toujours aussi qu'on puisse soutenir son institution. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de familles, malheureusement. Ce n'est pas un cas propre au Liban, c'est un peu malheureusement partout dans le monde. Maintenant, dans d'autres pays comme la France, c'est systématiquement pris en charge par la Sécu ou l'État ou les mutuelles, je ne sais pas. Mais au Liban, l'État est quasiment absent pour aider ces institutions-là. Donc, un hôtel comme ça, un hôpital comme ça, un hôpital psychiatrique ne peut compter que sur les bienfaiteurs, ou les familles qui peuvent aider et qui reconnaissent qu'ils sont à côté de leurs proches qui sont présents là. Mais combien de familles se désintéressent, c'est ça qui est terrible aussi. Et donc ce Téléthon a permis un peu de donner de l'oxygène à cette institution, mais il faudra toujours être proche de cela parce que. Enfin, moi j'ai toujours veillé avec des amis un peu autour de nous à ce qu'on soit toujours comment dire, à l'écoute de ces institutions-là parce que elles ont toujours besoin d'aide de personnes, d'hommes et de femmes de bonne volonté qui puissent les soutenir.
Ce soutien, il est marqué par une congrégation féminine également, qui sont un peu les anges de charité autour de ces personnes. Vous notez la grande délicatesse du père Jacques dans sa relation à ces religieuses, à la fois un rôle évidemment de direction spirituelle, d'administration. Mais également, vous le notez, une grande délicatesse. Vous notez quelque chose qui, pour l'époque, est assez remarquable, c'est qu'il regardait les sœurs dans les yeux, considérant que c'était une manière de reconnaître leur dignité.
Oui, non, c'est vrai que d'ailleurs dans l'enquête du Vatican, ils ont toujours, il y a tout un passage aussi où ils insistent sur la façon tout à fait remarquable avec laquelle ils dirigeaient cette congrégation, où il n'était pas dépourvu d'humour et
Oui, très caustique, vous dites même, vous.
et en même temps. Il avait des principes auxquels les religieuses devaient adhérer. C'était à la fois bien discipliné comme institution, mais en même temps, beaucoup de convivialité, des relations extrêmement cordiales qui faisaient que c'était une équipe qui était très soudée, qui était là au service des gens. Et lui était une sorte de figure emblématique qui, évidemment, il y avait des mères supérieures. On en a eu plusieurs, toutes plus remarquables les unes que les autres, mais elles ont été d'un grand secours pour que cette institution, cette congrégation se développe. Mais son image, sa présence est toujours là. Je suis frappé par la manière dont ces religieuses, quand elles se retrouvent le soir, elles lisent ces textes. Par exemple, même mon livre, lorsqu'il est sorti, elles l'ont lu ensemble. Il y a une vraie solidarité entre elles et la présence du Père Jacques est toujours là. Il est omniprésent dans tout ce qu'elles entretiennent. Tout ce qu'elles veulent entreprendre, il est toujours présent dans leur action. Et ça prouve que finalement, son empreinte est vraiment indélébile et leur dévotion à leur fondateur est toujours aussi forte.
Dévotion également parce qu'il prêchait continuellement. Je crois que vous faites le compte. Il y a 36 volumes reliés. Peut-être que je me trompe. Hein. Si 36 volumes reliés de sermons avec des prêches qui ne cherchent pas à vibrionner intellectuellement, mais qui cherchent à frapper et qui cherchent à proposer des modèles accessibles et simples à suivre finalement.
Oui, il était toujours dans cette logique de phrases percutantes mais simples, de ne pas aller dans des considérations trop philosophiques qui détournent la population de l'essentiel. C'est souvent des sermons qui donnent des leçons de vie, qui ouvrent des pistes de réflexion. Qui interprète les évangiles de façon extrêmement positive et ouverte. On sent chez lui aussi la force d'un prêtre qui avait des connaissances solides, théologiques solides, et qui avait un sens pédagogique hérité justement de cette expérience. Comme dans les écoles, qui fait qu'il savait toujours bien expliquer, bien transmettre, et ça se vérifie dans ces sermons.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Alexandre Najar qui publie Abou Nayyacoub, L'homme de la Providence, aux éditions Salvator. Vous revenez sur un élément difficile. Vous intitulez ce chapitre pudiquement Contrariété, Alexandre Najar. Abou Nayyacoub a fait face aussi à la vilenie, à la calomnie. Vous parlez d'un article publié en 1939 dans L'Orient qui attaquait la manière dont les pauvres patients étaient traités, si j'ai bien compris. Il n'hésite pas à cet égard à réagir vigoureusement.
Oui, bien sûr, bien sûr.
L'adversité ne lui fait pas peur.
Oui, toujours les gens comme ça qui réussissent sont souvent la cible de calomniateurs, mais toutes les enquêtes qui ont été faites à cette époque-là, c'était pas quelque chose qui était lié à sa personne. Il disait que la qualité des services laissait à désirer, etc. Or, toutes les enquêtes qui ont été ouvertes par le ministère de la Santé, etc., ont montré que c'était des sortes de cabales. Et en fait, on pense tout de suite au curé d'Ars, qui aussi avait reçu des pétitions contre lui. Mais lui ne se laissait pas faire parce qu'il envoyait des réponses pour récuser un à un les accusations. Et finalement, tout cela n'avait aucun sens. Et la preuve, c'est que toutes les fournitures que le gouvernement fournissait, comme médicaments, aussi les aides qui étaient octroyées, n'ont jamais été affectées par quoi que ce soit, parce que tout le monde savait qu'il était irréprochable. Aussi, il y avait des difficultés qui n'étaient pas liées. Bon, ça, c'est comme dit, c'était un épisode isolé. Heureusement que finalement, tous ces gens-là ont su à qui ils avaient affaire. Mais aussi, il y avait des problèmes, des fois, qui étaient liés à la logistique. Par exemple, à l'eau qui n'arrivait pas, donc il fallait puiser des puits, stocker l'eau de pluie, prendre des initiatives ici et là, aller à l'encontre de certaines mairies ou municipalités qui ne voulaient pas être enfin coopérer. Donc aussi, il était toujours au four et au moulin, comme on dit, pour essayer d'aplanir les difficultés. Donc il était toujours à la hauteur de ces défis et rien ne l'a jamais arrêté jusqu'au bout.
Tout cela en préservant la pureté de ses vœux. Vous parlez de sa relation. Alors ça, c'est très propre à beaucoup de saints libanais. Saint Charbel a beaucoup d'épisodes comme ça, avec une grande pratique de l'obéissance, notamment vis-à-vis de ses supérieurs, une grande humilité vis-à-vis des supérieurs. Vous racontez une anecdote où on lui dit surtout ne va pas au couvent à Beyrouth, le supérieur est extrêmement dur, et il répond bah, justement je vais y aller. Il y a une vraie spiritualité de l'obéissance, alors qui est propre aux vœux religieux, mais peut-être que vous me détromperez, mais qui est aussi propre à une partie de la spiritualité des religieux libanais, je trouve, alors qu'ils soient capucins ou de l'ordre libanais maronite, hein, évidemment.
Mais là aussi, je pense que les jésuites ont cela aussi. Mais c'est vrai que ça relève de l'humilité. Parce que finalement, cette obéissance vient du fait que personne n'est au-dessus d'un autre. Et que si un jour on vous demande d'aller d'un couvent à Beyrouth, à un couvent dans la Bekaa, pour vous occuper des vaches et du vin de la congrégation, vous devez y aller. Donc c'est un peu dans l'esprit de cette humilité qui est belle. Moi aussi, vous savez, j'ai écrit une biographie de Saint Jean-Baptiste et c'est ce qui m'avait frappé aussi, c'est Saint Jean-Baptiste, c'était cette humilité lorsqu'il dit au Christ que je ne suis pas digne de nouer la courroie de tes sandales. C'est le fait qu'il vive dans l'indigent, enfin dans la sans aucun dans la pauvreté, dans le désert. Donc je crois que cela, comme Jésus, d'ailleurs Jésus aussi a vécu de façon extrêmement simple, je crois que c'est ça aussi le message du Christ, c'est ce message de simplicité, d'humilité, d'entraide, d'amour, de paix. Et là, cette idée de paix, c'est peut-être l'occasion de parler aussi comment aujourd'hui un pape qui prêche la paix, qui est au cœur même, dans l'essence même de la religion chrétienne, se voit reprocher cela par un président américain
Qu'est-ce que ça
qui...
vous inspire
Bon,
d'ailleurs, Alexandre Najjar? Le pape François, vous l'avez dit, a donné sa première visite internationale au Liban. On a bien vu qu'il était extrêmement marqué par son passage dans le pays du Cèdre, et en même temps que les Libanais lui ont fait un accueil très enthousiaste. Qu'est-ce que vous inspire cette à la fois cette
En fait,
défense?
le pape Léon, lorsqu'il est venu, a souligné à plusieurs reprises cette idée de paix. Il a martelé cette idée de paix. Il n'est pas du tout entré dans les considérations politiques, etc. Mais je pense que dans chaque allocution ou dans chaque discours qu'il a fait, dans chaque sermon, cette idée de paix revenait. Cette paix est inhérente au message des évangiles où il donne. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix qui est dans les Écritures. Donc, Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à un pape, surtout comme le pape Léon, de parler de paix pour rejeter la violence, la haine, la guerre, et qu'un président ubuesque comme Trump vienne le lui reprocher de façon grotesque. Et en plus, qui se fait, qui fait une image où il se met en Jésus, après il essaie de dire ouais, mais c'était un peu, j'étais en médecin et non pas en Jésus. C'est grotesque, c'est hallucinant. Je pense que moi je l'ai écrit parce que j'ai un éditorial dans le supplément L'Orient littéraire que je dirige avec vous. C'est incroyable, c'est hallucinant. Non, Ubu à côté, le grand dictateur de Chaplin à côté, c'est rien, c'est incroyable. Et donc qu'ils s'en prennent aussi au chef de l'Église de cette façon éhontée, mais vraiment, quelle époque, c'est affligeant. Et moi, enfin, au Liban, nous sommes tous, bien entendu, révoltés et solidaires du Saint-Père face à des élucubrations de ce genre, qui d'ailleurs ne se limitent pas à lui. Il y a aussi un de ses ministres qui a cité un extrait des évangiles qui n'existe pas. Donc, on se demande vraiment de quoi se réclament ces gens-là qui sont à côté de la plaque complètement et qui déshonorent finalement le message dont ils veulent se réclamer et dont ils ne sont pas dignes. Et je crois que le pape Léon a très bien répondu de façon très digne et de façon très juste. Et voilà, donc je crois que de toute façon, cette bêtise a beaucoup nui au président Trump parce qu'en fait, je pense que toute la communauté chrétienne a tout de suite compris que, où était la vérité dans cette polémique. Donc, c'est affligeant.
Nous allons nous retrouver après notre ultime pause musicale. Nous conversons avec Alexandre Najar de son dernier ouvrage Abouna Yacoub, l'homme de la Providence, aux éditions Salvator. Et vous êtes de retour pour les 10 dernières minutes de cette formidable entretien avec Alexandre Najar, l'auteur d'Abouna Yacoub, l'homme de la Providence, aux éditions Salvator. Abouna Yacoub va connaître son crépuscule en juin 1954. Dans quel état disparaît-il à ce monde pour naître à l'autre, Alexandre Najar?
Donc, il décède d'une embolie pulmonaire après avoir prononcé ces mots: Ô croix du Seigneur, ô bien-aimé du cœur, mon Dieu, entre vos mains, je remets mon âme, Jésus, Marie, Joseph. Donc, à son dernier souffle, il était dans la prière. Et bien entendu, c'était un choc pour tous les Libanais qui l'aimaient et l'appréciait, et c'était un deuil presque national. Et toutes les autorités du pays se sont rassemblées pour lui rendre un dernier hommage. Ils lui ont donné les plus hautes distinctions, donc probablement il se fichait pas mal, mais c'est pour dire aussi que c'était quelqu'un qui a été reconnu aussi pour son apport au Liban. Et par la suite, le pape Jean-Paul II l'a reconnu vénérable en 1992. Et Benoît XVI a ensuite, en 2008, approuvé sa béatification. Et il y a eu une célébration à Beyrouth pour consacrer cette béatification. Et donc j'étais présent à cette époque-là. Et c'était.
Racontez-nous un petit peu cette cérémonie, ça devait être un moment extrêmement fort.
Ah oui, parce qu'en fait, tous les Libanais étaient réunis à Beyrouth, donc de toutes les confessions, les Libanais sont venus aussi bien chrétiens que musulmans. Il y avait toutes les congrégations religieuses, aussi bien maronites, orthodoxes, catholiques, protestantes, en fait, toutes les communautés religieuses étaient là, donc dans une ferveur commune. Et puis, c'était l'occasion de rappeler les œuvres du Père Jacques. Bien entendu, tout le monde était à la fois heureux et fier que devienne bienheureux en attendant, j'espère, très prochainement, qu'il soit proclamé saint. Parce que d'abord, pour nous, c'est déjà un saint. Et moi, j'ai toujours pensé que la sainteté, quelquefois, n'avait pas toujours besoin d'être consacré, mais que des fois dans la vie de tous les jours, des personnes se comportent comme des saints et sont reconnues comme telles par tous leurs proches, tous ceux qui les ont connus. Donc pour nous aujourd'hui, pour nous c'est déjà un saint, mais bien entendu il y a des formalités, des démarches qui sont tout à fait normales selon la tradition. Mais beaucoup de gens déjà, comme bienheureux, ont toujours dans leur poche ou leur sac une photo du Père Jacques. Dans les moments difficiles, beaucoup de gens l'invoquent, le prient. Souvent à l'hôpital Saint-Joseph, j'ai vu des personnes malades qui priaient pour qu'il soit à leur côté. Donc c'est vraiment un saint. Enfin, un futur saint, un bienheureux qui a acquis la ferveur de milliers de Libanais. Aujourd'hui, rien que les œuvres qui sont toujours là parlent pour lui. Toutes ces institutions-là, il n'y a pas d'équivalent au Liban d'un prélat qui ait pu construire, bâtir toutes ces institutions qui sont toutes au service des gens. Les écoles, c'est pour apprendre, enfin, éduquer la jeunesse, bien entendu aussi au catéchisme, à la vie, enfin, à une éducation spirituelle aussi à côté de l'éducation habituelle. L'hôpital psychiatrique pour les personnes qui sont les délaissées, malheureusement, de la société. Et d'ailleurs, le pape Léon a beaucoup insisté sur les gens qui étaient les plus délaissés, sont ceux qu'on doit aimer le plus parce que ce sont des gens rejetés et qui ont besoin de notre amour. Et aussi l'hôpital qui accueille plein de malades, qui a aussi un centre d'orthophonie qui accueille presque gratuitement des centaines de personnes. Les vieux prêtres également qui sont accueillis dans leurs institutions. Donc je peux dire que l'héritage du Père Jacques est à la fois quelque chose de concret, des institutions qui sont toujours là, plus de 75 ans après sa mort, et aussi un héritage spirituel par la congrégation qu'il a fondée, et puis par tous ses fidèles qui le prient chaque jour, parce qu'ils savent que ce saint homme est un homme de Dieu, et que c'est un être exceptionnel qui a dépassé par sa ferveur, par sa foi, par sa relation avec cette providence qu'il invoquait toujours, qu'il a été hors du commun par rapport à des centaines d'autres prêtres qui sont aussi, peut-être il y en a aussi dans son cas, mais peut-être qu'ils sont moins connus. Mais lui n'a rien fait pour être connu. Il ne recherchait pas la célébrité. Ce n'était pas un prélat, un prêtre qui était dans les mondanités. Au contraire, il était toujours dans l'humilité. Mais si on parle tellement de lui aujourd'hui, c'est parce que ces institutions qu'il a créées sont bien là, elles sont devant nous. On ne peut que reconnaître son mérite grâce à ce qu'il a bâti.
Vous avez parlé pendant toute cette émission, Alexandre Najjar, de son attachement à sa terre libanaise. Je vous cite, très attaché à ses racines libanaises, il écrira plus tard, la patrie, pardon, c'est la terre de nos ancêtres, l'air qu'ils ont respiré, le ciel qu'ils ont contemplé, les pensées qu'ils ont entretenues, la religion qu'ils ont embrassée, à laquelle ils se sont accrochés, qu'ils ont protégée et pour laquelle ils se sont peut-être sacrifiés. Comment ne pas l'aimer? Quelle belle déclaration d'amour pour le Liban.
Exactement. Et d'ailleurs, je répète que le Liban est quand même une terre qui a de fortes racines chrétiennes, qui a, à part les saints donc, que vous avez cités tout à l'heure, mais les sites religieux, il y a eu une sorte d'itinéraires religieux qui ont été établis au Liban par le ministère du Tourisme, etc. On se rend compte à quel point cette terre est ancrée dans la spiritualité. Et moi, quand j'ai écrit mon livre sur Kadisha, je suis allé sur place, j'ai visité les couvents, les cellules des moines. D'ailleurs, il y avait un moine français qui avait choisi de vivre dans une cellule, enfin dans une grotte de la Kadisha, parce qu'il avait ressenti le besoin d'aller aux racines même du christianisme. Et ce sont des endroits qui sont hors du temps, qui sont exceptionnels. Et l'homme le plus athée tombe à genoux dans ces endroits-là, tellement on sent cette spiritualité, cette nature qui communie. Enfin, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que les chrétiens du Liban, souvent on parle des chrétiens d'Orient, des chrétiens du Liban, ils sont aussi à la. Des piliers de ce pays. Il y a le vivre ensemble, bien entendu. Nous sommes tous dans plusieurs communautés, mais il ne faut pas négliger cette communauté qui est bien ancrée ici, qui n'est pas du tout, qui habite chez les autres. Elle est chez elle, elle est là. Et c'est pour ça qu'il faut aussi toujours être attentif à cette communauté, être à ses côtés. Elle a besoin aussi de ses amis, notamment en France, avec les relations séculaires qui se sont nouées avec la France depuis toujours. Donc, cette osmose entre nos deux peuples est tellement importante et il ne faut pas oublier cette région du monde qui a aussi, qui porte cette spiritualité en elle. Et cette spiritualité, j'insiste aussi sur un point, c'est que ce n'est pas du communautarisme, ce n'est pas un refus de l'autre, ce n'est pas une idée de vouloir être différent des autres ou enfin de donner une dimension politique à cela. Non, non, c'est un constat. C'est une terre qui a des racines très ancrées dans le christianisme, qui a cette spiritualité. Et je crois qu'elle mérite aussi l'amour, l'attention, le respect, la solidarité de ceux qui croient aussi, et qui aime le Liban.
Un immense merci de nous avoir accompagnés dans cette émission, Alexandre Najjar. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Abouna Yacoub, l'homme de la Providence aux éditions Salvator. Entrez dans cette biographie qui vous fera aimer à la fois le Père Jacques et découvrir un petit peu sa terre et sa spiritualité. Nous ne pouvons que vous le recommander.
Merci beaucoup.
Amis auditeurs de Radio Courtoisie, je vous remercie pour cette émission et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Libre Journal des débats.
Venez d'entendre le Libre Journal des débats dirigé par Charles de Meyer. Émission préenregistrée le 17 avril 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 22 avril de 21h30 à 23h et réalisé par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.